toujours à l'écoute.
Radio France Internationale, 15h à Paris, il est 13h en temps universel. L'heure de vous retrouver, Stéphane Geneste, pour la suite des RFI Midi.
Merci, Nemo en piste, effectivement, c'est la dernière partie des RFI Midi. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Avec d'abord la campagne présidentielle aux États-Unis, il va y avoir un débat, Kamala Harris, Donald Trump, les deux candidats vont s'affronter le 10 septembre prochain, c'est dans un mois. Dossier également à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones ce vendredi. Au Canada, un chef autochtone vient d'être désigné tout premier prisonnier politique du pays par l'ONG Amnesty International. Et puis l'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand, et à la une, ce premier cas humain d'infection par le virus West Nile détecté en Guadeloupe.
Information de l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe. Jusqu'à présent, seuls des chevaux avaient été contaminés dans l'archipel guadeloupéen. C'est ce que nous dira tout à l'heure notre consoeur Colette Bordin.
A tout à l'heure, Benoît Ferrand. On vous appelle dans 20 minutes.
RFI Midi.
Et d'abord le journal avec Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
La tempête Debby poursuit sa trajectoire le long de la côte est américaine.
Elle a touché terre en Floride lundi en provoquant des pluies torrentielles et des tornades jusqu'en Pennsylvanie, dans le New Jersey et au Delaware. Le Canada s'attend à être touché à son tour ce week-end. Au moins 6 personnes ont été tuées depuis le début de la semaine. Le coût des dégâts liés aux inondations n'est pas encore connu. Mais les scientifiques s'accordent d'ores et déjà pour dire que Debby aura mis en lumière les vulnérabilités, Stéphanie Schuller, des États sud-est américains face au changement climatique.
De la Floride en passant par la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et jusqu'en Virginie, les États du sud-est américain accumulent à eux seuls tous les effets du changement climatique. Nulle part ailleurs aux États-Unis, l'élévation du niveau de la mer est aussi rapide. Cela s'explique par le réchauffement des océans et l'affaissement du littoral. Mais la menace vient aussi du ciel. Si le sud-est américain se situe traditionnellement sur la route des ouragans, les précipitations à l'automne ont presque doublé en 100 ans. Pour ne rien arranger, toute cette eau a de plus en plus de mal à infiltrer les sols. En cause, les États du Sud-Est connaissent une croissance démographique plus rapide que le reste du pays. En raison de l'afflux important de nouveaux résidents, les villes s'étalent et l'artificialisation des sols augmente. Comme ailleurs, les températures ne cessent de grimper, mais dans ces États du Sud-Est américain, les fortes chaleurs sont aggravées par l'humidité qui les rend particulièrement dangereuses pour les habitants.
Les précisions de Stéphanie Schuller.
Kamala Harris, Joe Biden, ensemble, côte à côte, dans une semaine. Ce sera jeudi prochain, le président des États-Unis qui sera aux côtés de sa vice-présidente et nouvelle candidate démocrate à la présidentielle pour un déplacement commun.
Ce sera dans l'état du Maryland, près de Washington, pour parler notamment de l'inflation. Kamala Harris qui redonne un nouveau souffle à la campagne présidentielle des démocrates après l'abandon de Joe Biden. Elle débattra contre Donald Trump le 10 septembre prochain, le candidat républicain qui, lui, peut compter dans sa campagne sur le soutien d'Elon Musk, le propriétaire du réseau social X. Les fausses informations sur la plateforme ont cumulé plus d'un milliard de vues depuis le début de l'année. Le milliardaire ne se prive pas d'en partager sur son compte suivi par plus de 190 millions d'abonnés. Et à moins de 3 mois de la présidentielle américaine, les fake news se multiplient, Mathis Slimano, et visent évidemment principalement le camp démocrate.
Oui, rien qu'en 2024, ce sont 50 publications fausses ou trompeuses du milliardaire qui sont recensés par l'ONG CCDH, le Centre contre la haine en ligne. Des postes qui évoquent tous les élections, par exemple quand Elon Musk affirme que les démocrates encouragent l'immigration illégale afin d'importer des électeurs. Fin juillet, il publie une prétendue nouvelle vidéo de la campagne de Kamala Harris. On y entend la démocrate dire que si l'on n'est pas d'accord avec elle, c'est soit du racisme, soit du sexisme. Sauf que ses propos n'ont jamais été tenus. La vidéo a été générée par l'intelligence artificielle, une information qu'Elon Musk s'est bien gardé précisé lors de sa publication. L'ONG relève aussi l'absence de notes sous les publications problématiques du milliardaire. Ces notes sont apposées par la communauté sous les publications fausses ou trompeuses. Elon Musk semble en être dispensé. Pour rappel, X a largement réduit ses équipes de modération depuis son rachat en 2022. Son règlement a aussi fortement été assoupli. Pour l'ONG, Elon Musk abuse de son pouvoir sur la politique en tant que propriétaire d'un réseau social influent. Son directeur rappelle que ses messages haineux peuvent amener à de la violence. violence dans le monde réel.
Mathis Slimano, le réseau social X qui a été suspendu au Venezuela sur décision de Nicolas Maduro pendant 10 jours. Le président, dont la réélection est contestée depuis une semaine, accuse régulièrement Elon Musk de comploter contre lui. La Russie déploie davantage de matériel militaire dans la région de Koursk. Les troupes ukrainiennes poursuivent leur incursion. Plus de 1000 soldats et une dizaine de chars participeraient à l'attaque selon Moscou. Dans le même temps, au moins 10 personnes ont été tuées, 35 blessées dans une frappe russe sur un supermarché à l'est de l'Ukraine.
Il est de retour en Belgique, du moins selon ses proches.
Oui, Carles Puigdemont aurait quitté l'Espagne après une brève apparition hier à Barcelone. Le leader indépendantiste catalan fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt. Il a vraisemblablement réussi à fuir malgré le dispositif mis en place par les forces de l'ordre. Un juge de la Cour suprême a donc demandé des explications à la police catalane et au ministre de l'Intérieur espagnol concernant l'échec de ce dispositif. Deux policiers catalans ont été arrêtés hier. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé Carles Puigdemont lors de sa fuite. Un séisme de magnitude 5,3 dans la région de Tokyo. Une autre secousse plus forte a auparavant été enregistrée dans le sud-ouest de l'archipel japonais. L'agence météorologique nationale a alerté sur le risque d'un éventuel méga-séisme. Le premier ministre Fumio Kishida a renoncé à un déplacement prévu en Asie centrale.
15h06 ici à Paris. On ouvre notre page consacrée aux Jeux Olympiques et ça y est, la première battle, le premier duel doit débuter dans un peu moins d'une heure à la Concorde à Paris. Le public va enfin découvrir le breaking, une nouvelle discipline olympique, Clotilde.
Et oui, un style de danse acrobatique venu de la culture hip-hop, né dans les années 70 aux États-Unis. Une vraie démonstration artistique et sportive qui représente parfois bien plus pour certains athlètes. Manisha Talash a 21 ans. Elle a fui l'Afghanistan où il était devenu trop dangereux de danser avec le retour des talibans au pouvoir. C'est donc à Paris qu'elle va librement pratiquer sa passion sous les couleurs de l'équipe olympique des réfugiés. Valentin Hugues l'a rencontré pendant ses derniers entraînements.
Manisha Talash enchaîne les mouvements, bouge les jambes, les bras, pose la tête sur le sol. Et cette big girl, le nom donné aux adeptes du breaking, le fait avec le sourire et un regard déterminé.
Quand j'ai commencé le breaking en Afghanistan, au tout début je pouvais m'entraîner, puis j'ai rapidement dû me cacher. Aujourd'hui je peux danser librement, je vis un rêve. Quelle fierté de pouvoir danser comme ça.
Première femme à pratiquer le breaking à Kaboul. Après ses premières représentations, Manisha Talash est visée par 2 attentats. Pour continuer sa passion, elle est obligée de fuir.
Le breaking, c'est toute ma vie. C'est beaucoup plus qu'un sport, plus qu'une danse, c'est tout un art, toute une culture.
À l'annonce de sa sélection pour les Jeux, par sécurité, une partie de sa famille a dû quitter l'Afghanistan à son tour. À présent, la jeune femme de 21 ans danse librement au JO devant les caméras du monde entier.
Ce que je ressens, c'est la fierté. Parce que participer au JO en tant que femme afghane, normalement, c'est presque impossible.
Manisha Talash concourt sous les couleurs de l'équipe olympique des réfugiés.
Et elle dansera donc dans un peu moins d'une heure à 14h en temps universel face à une néerlandaise surnommée India. Les Jeux Olympiques toujours avec les Argentines qui entament leur match face aux Belges pour la médaille de bronze en hockey. Petite finale également dans moins d'une heure entre les Italiens et les Américains au volleyball. Et puis match pour la médaille d'or en football entre l'équipe de France masculine et l'Espagne à partir de 16h TU. De l'athlétisme également avec les finales des 4x100 mètres hommes et femmes dans la soirée. La fin de l'heptathlon, la finale de triple saut chez les hommes ou encore le 10 000 mètres féminin. Les qualifications pour les finales des relais 4x400 mètres se sont terminées ce matin avec le plus jeune Américain, Stéphane, à avoir participé à des Jeux Olympiques. Il s'agit de Quincy Wilson. Il n'a que 16 ans, 7 mois et un jour.
En tout cas, tout
presque aussi jeune que vous.
Exactement, oui, au moins ça. Quel programme, merci beaucoup, Clotilde Dumay. Vous savez quoi, ce programme, vous le suivez évidemment sur RFI à partir de 18h10, heure de Paris, Radio Jeux International sur la radio du monde en direct du Club France avec Hugo Moissonnier. Mais pour l'instant, on reste ensemble. Il est 15h09 ici à Paris, 9h09 à Port-au-Prince.
RFI Midi.
Kamala Harris et Donald Trump sont enfin tombés d'accord sur une date de débat pour la présidentielle américaine. Premier débat prévu dans un mois, ce sera le 10 septembre prochain. C'est le candidat républicain qui l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse. Une prise de parole où Donald Trump a aussi attaqué Kamala Harris et son colistier Tim Walz. Il a d'ailleurs laissé entendre notamment qu'elle n'était pas légitime pour être candidate sans avoir été désignée par les électeurs lors de primaires.
We have a vice president who is the least admired, least respected, and the
Nous avons une vice-présidente qui est la moins respectée, la moins admirée, la pire de toutes les vice-présidentes de l'histoire de notre pays. Elle n'a pas reçu un seul vote aux primaires et c'est elle qui se retrouve candidate. Ça ne me dérange pas. Mais Joe Biden avait été désigné candidat. Le bilan de Kamala est horrible. C'est une radicale de gauche comme on n'en a jamais vu. Et elle a choisi un radical de gauche pour colistier. Il ne veut pas de frontières, il ne veut aucune forme de sécurité dans notre pays.
Voilà pour cette prise de parole de Donald Trump hier. Bonjour Abla Junaidi.
Bonjour.
La presse américaine qui revient largement sur cette conférence de presse de Donald Trump, qualifiée d'acte de désespoir devant l'élan de Kamala Harris par Gavin Newsom dans le New York Times, Abla.
Oui, le gouverneur démocrate de Californie était interrogé par le journal sur une drôle d'anecdote racontée par le milliardaire new-yorkais hier, celle d'un accident d'hélicoptère évité de peu et auquel aurait dû assister Gavin Newsom puisqu'il était dans l'appareil ce jour de 2018. Sauf que c'est complètement faux, répond Hillard, le gouverneur, au journal. Pour le Washington Post, c'est à une conférence de presse sinueuse que les Américains ont assisté hier, révélatrice, selon le New York Times, d'un sentiment insidieux, la frustration de Donald Trump, visible partout, selon le quotidien. Le magazine Vanity Fair énumère les mensonges proférés par Donald Trump hier, en rétablissant pour chaque mensonge les faits, sur l'attaque du Capitole le 6 janvier, sur l'immigration ou encore l'avortement. Mais c'est bien sûr Kamala Harris, on vient de l'entendre, que Trump s'est acharné en mettant en cause son intelligence, insultée à plusieurs reprises, relève Vanity Fair, le magazine, concluant que l'ancien président n'a pas fait grand-chose hier pour faire oublier qu'il est en train de fondre dans les sondages face à Harris.
Et pour autant, Abla, sur Twitter, sur X, la principale concernée a accepté de débattre avec son rival.
Elle a même hâte. Hier, la candidate démocrate, critiquée depuis le début de la campagne pour son refus de répondre aux questions des journalistes, a aussi déclaré qu'elle espérait s'asseoir pour une interview prolongée avant la fin du mois, rapporte The Hill. Le camp républicain, en particulier le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, a fait de cette absence de questions-réponses un angle d'attaque récurrent, rappelle le journal. Qui est cette femme ? Ose demander Kimberly Stressel, l'éditorialiste du Wall Street Journal, relevant qu'il est bien difficile de déceler les convictions de la candidate sur les dossiers cruciaux, la fracturation hydraulique, les véhicules électriques. Kamala ne dit rien, elle ne parle plus à l'improviste, fait plutôt des insinuations par l'intermédiaire de ses porte-paroles. Il revient aux électeurs de supposer et de voter en conséquence, critique l'éditorialiste. Interrogé dans le New York Times, l'ancien conseiller de Barack Obama, David Axelrod, avance une explication sur le fait que la candidate évite pour l'heure les interactions improvisées, un exercice qui permet aux gens en général de se faire une idée d'un candidat. Il estime que ces dernières semaines ont été mouvementées et que pour l'instant, les discours de campagne énergiques fonctionnent très bien, donc elle surfe sur la vague tout en essayant de trouver un équilibre.
Direction le Venezuela à présent avec ses nouvelles manifestations hier à Caracas, mobilisation anti-Maduro qui continue dans la capitale vénézuélienne. Hier à Caracas, une veillée organisée pour appeler à libérer les prisonniers politiques, tout comme les personnes arrêtées depuis le début des protestations post-électorales. À Nicolas Maduro qui comparaît ce vendredi devant la Cour suprême au sujet de l'élection contestée du 28 juillet dernier. La Cour qui risque d'ailleurs de valider les résultats non détaillés qu'il donne vainqueur. Le Monde regarde, a prévenu le sous-secrétaire d'État américain pour la région, Brian Nichols. En tout cas, qu'il s'agisse de manifestants, de dirigeants politiques, de journalistes, le gouvernement de Nicolas Maduro mène une répression féroce envers les voix dissidentes. Dernière illustration en date, Abla Junaidi, Nicolas Maduro a décidé de couper le réseau social X.
Pour 10 jours au moins, selon Ultimas Noticias, il a souligné que le Venezuela est en train de lutter contre un cyber-coup d'État de la part de la puissance de l'empire technologique qui a attaqué l'ensemble du système électoral, fin de citation, dans son collimateur X, donc, et son fondateur Elon Musk, accusé d'inciter à la haine et à la violence contre les autorités gouvernementales, policières et militaires. Mais ce n'est pas tout. Maduro a assuré que la plateforme de messagerie WhatsApp travaillait aussi depuis des mois avec le trafic de drogue colombien pour espionner le Venezuela et exécuter le plan fasciste. Fin de citation également par Ultimas Noticias. Le tout sans preuve. C'est la deuxième mesure de répression à l'encontre d'une application initiée par le gouvernement Maduro jeudi après Signal, rappelle Efecto Cocuyo.
Et par ailleurs, à l'instant, il y a quelques secondes, d'après nos confrères de l'agence France Presse qui a accordé un entretien à l'opposition vénézuélienne, l'opposition vénézuélienne offre des garanties au président Maduro s'il quittait le pouvoir. Par ailleurs, l'opposition ajoute que les forces internationales sont co-responsables de ce qu'il se passe au Venezuela. Voilà extrait de cet entretien de l'opposition vénézuélienne à nos confrères de l'agence France Presse. C'est le journal d'Haïti et des Amériques. Il est 9h15 à Port-au-Prince.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Abla Jonaïdi, en Haïti, le gouvernement de Gary Conille veut renforcer l'action de l'administration publique.
Le Premier ministre de la Transition promet en tout cas des réformes au niveau de l'État, tant au niveau des salaires que dans les modes de recrutement et dans le traitement et la gestion du personnel, rapporte le National. Ce jeudi, un atelier sur l'audit et la recapitalisation des ressources humaines de l'administration publique a permis de diagnostiquer la fonction publique haïtienne. La masse salariale reste gonflée alors que le nombre de fonctionnaires diminue de 8 000 à 10 000 selon les chiffres, précise de son côté le Nouvelliste. Le gouvernement veut établir un audit sur la présence physique des fonctionnaires, vital au processus d'assainissement de la masse salariale, selon la ministre des Finances citée dans le journal. Le Nouvelliste qui souligne à sa une donnée fondamentale. Entre 8 et 10 000 fonctionnaires ont quitté le pays sur les 103 000 titulaires enregistrés.
Toute la presse du continent américain avec Abla Jonaïdi. Merci Abla et toute cette presse, vous la retrouvez évidemment sur RFI.fr. Sur la page, le journal d'Haïti et des Amériques. Nous sommes le 9 août, journée mondiale des peuples autochtones, populations qui sont parmi les plus vulnérables dans le monde. Elles représentent 6% de la population mondiale, répartie dans 90 pays, populations autochtones menacées par la déforestation, le changement climatique, les industries, contexte qui les pousse à se mobiliser et à s'exposer. Exemple au Canada, plus précisément en Colombie-Britannique, où un chef autochtone est devenu le premier prisonnier d'opinion au Canada. C'est en tout cas ce que dénonce l'ONG Amnesty International. Le chef Tsahil de la nation des Witsweten est assigné à résidence depuis le mois de juillet. Son tort, c'est s'être mobilisé pacifiquement contre la construction d'un gazoduc qui doit traverser cette province d'est en ouest sur une longueur de 670 km. Mathis Slimano a recueilli les propos de Morgan Joffredo, responsable de la commission justice climatique à Amnesty International, avec d'abord cette question: comment le Canada peut emprisonner quelqu'un en raison de ses idées?
Alors oui, on a l'image un peu d'un Canada qui est respectueux du multiculturalisme, qui est engagé dans une réconciliation avec les nations autochtones, etc. Mais il faut quand même rappeler le passé très lourd du Canada qui a mené un génocide contre les nations autochtones. Et donc, on pensait que tout ça était derrière, que ça ne faisait que partie du passé. Mais avec le combat des Witsweten, on a toujours ces réflexes coloniaux qui sont là, avec à l'œuvre des processus d'harcèlement, d'intimidation.
Est-ce que les Witsweten envisagent encore un tel processus de réconciliation?
Ils disent que le processus de réconciliation, il est mort. Les valeurs sont incompatibles. Les Witsweten veulent protéger leur environnement et leur culture, alors que les Canadiens, ils perçoivent des Canadiens un appât du gain et des intérêts industriels avant tout. Les Witsweten ont besoin de leur environnement parce qu'ils leur permettent de dialoguer avec les ancêtres. Ils leur permettent d'aller mieux, c'est-à-dire qu'une personne déprimée va aller à la rivière et va se sentir mieux. Donc si on porte atteinte à tout ça, on porte atteinte non seulement à l'environnement, et ce projet de gazoduc est une bombe fossile, mais encore, c'est une atteinte aux pratiques culturelles de ce peuple autochtone.
Morgan Joffredo, la construction de ce gazoduc intervient en plus dans un contexte de réduction des énergies fossiles.
Justin Trudeau et son gouvernement n'arrêtent pas de se féliciter de ce gazoduc en disant que c'est l'un des plus grands projets d'investissement privé dans l'histoire du Canada. C'est vraiment une infrastructure absolument gigantesque parce qu'en plus du gazoduc, ils vont devoir construire des stations de compression parce qu'en fait, c'est un peu la première fois que du gaz à l'état liquide va passer dans des zones aussi montagneuses et aussi froides. Et ensuite, amener tout ça à Kitimat sur la côte ouest pour ensuite pouvoir l'exporter vers la Chine et vers la Malaisie. Donc, en plus de la pollution au gaz, etc., et des infrastructures, il y a aussi le commerce maritime qui est derrière.
Et que dit le droit international?
Les territoires qui appartiennent aux Premières Nations aux nations autochtones, et c'est le cas du territoire des Wet'suwet'en, eh bien, ce territoire leur appartient. C'est un territoire qui est non cédé à la couronne britannique, et donc tout projet doit passer par leur consentement ou non. Rappelons que à l'échelle de la planète, les peuples autochtones représentent à peu près 5% de la population mondiale, mais prennent soin de la plus grande majorité de la biodiversité terrestre et des terres sur Terre. Donc, on a vraiment besoin d'écouter ce qu'ils nous disent, de voir comment ils prennent soin de la nature et d'en tirer des leçons en Occident.
Morgane Geoffredo, responsable de la commission justice climatique à Amnesty International. Elle était interrogée par Mathis Slimano pour RFI, 15h20 ici à Paris. L'actualité des Outre-mer avec nos confrères de la Première et à la Une, ce premier cas humain d'infection par le virus West Nile détecté en Guadeloupe, Benoît Ferrand.
L'information a été révélée hier par l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe. Jusqu'à présent, seuls des chevaux avaient été contaminés dans l'archipel. Alors, dans 80% des cas, la fièvre du Nil occidental est asymptomatique, mais il arrive que la maladie se révèle plus grave, voire même mortelle. Colette Borda.
Le patient est un homme actuellement hospitalisé et c'est en Guadeloupe lors d'un séjour qu'il a été contaminé. Il s'agit du premier cas humain chez nous. Présent dans l'archipel depuis 2002, le West Nile avait jusqu'ici été détecté uniquement chez des chevaux. Moins connu que la dengue ou encore le chikungunya, il est lui aussi transmis directement par un moustique, le moustique du genre Culex, dit commun. L'infection peut également provenir d'une transfusion sanguine ou d'une greffe. Le virus ne se transmet toutefois pas d'homme à homme ni d'homme à moustique. Dans la plupart des cas, cette infection est asymptomatique, mais elle peut parfois se manifester sous forme entre guillemets grippale, fièvre, maux de tête et courbatures. Chez les personnes fragiles, elle peut entraîner des infections neurologiques sévères, voire mortelles. Alors pour s'en prémunir, indique l'ARS, il convient d'appliquer les mêmes mesures que pour la dengue, éliminer les eaux stagnantes, éviter les zones infestées comme les mangroves et se protéger des moustiques.
En Martinique, les usagers des vedettes maritimes devront encore patienter quelques jours. Les rotations entre Fort-de-France, les Trois-Îlets et Casse-Pilote ne reprendront finalement que mardi prochain. Un accord de fin de conflit a certes été signé hier, mais il reste à vérifier le bon état des embarcations, comme le précise la présidente de Blue Lines, Lise Moutamal, au micro de la Première Martinique.
Nous sommes toujours en train de travailler à la mise en sécurité des navires. On s'assure en fait que les radeaux de survie ont tous leur date de péremption aux normes. On s'assure que tout est en règle par rapport à ça. Et on a des tests qu'on a prévus dans la matinée de lundi. L'objectif étant de nous assurer que les bateaux sont nickel pour pouvoir faire la navigation. Donc sur ces aspects sécuritaires, on va les régler jusqu'à la fin de la semaine et donc lundi pour les tests, ce qui nous permettra de démarrer dès mardi. On a fait le choix parce qu'aujourd'hui, on a 3 bateaux qui sont en état de navigation sur les 7 qui auraient dû l'être à la prise de fonction en début juillet. Et donc sur ces 3 bateaux, il y en a un qui sera gardé en réserve et on en a 2 qui vont faire les dessertes pour la pointe du bout, toutes les demi-heures, de manière à avoir un service en continu et mieux gérer en fait les flux. Donc on va mettre en place progressivement les autres bateaux en état de navigation. L'objectif, c'est que semaine après semaine, on puisse les rajouter. La rentrée de septembre est là déjà. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à travailler pour qu'on puisse tous les avoir. Et puis d'ores déjà de monter en puissance en fait sur les 2 dernières semaines du mois d'août.
Bon après-midi, bon week-end Stéphane, à lundi.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, très bon week-end à vous aussi. Puis on vous retrouve lundi, évidemment, dans le journal d'Haïti et des Amériques à 15h23, ici à Paris. RFI Midi touche à sa fin. Mais rassurez-vous, comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, on poursuit notre périple musical à travers les États-Unis jusqu'à la présidentielle du mois de novembre. Et on remonte ensemble le Mississippi avec le livre Rock'n'Roll Trip, les États-Unis en 1000 chansons de Laurie Kenton et de Julien Grosso. Julien Grosso qui est au micro de Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Julien Grosso.
Bonjour Julien.
Où partons-nous aujourd'hui ?
On est en plein mois d'août, c'est les vacances. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire rêver.
California Dreamin', un hymne signé des Mamas and Papas en 1965. If I was in LA. Julien, j'ai l'impression que vous nous emmenez sur la côte ouest aujourd'hui.
Et oui, on est parti pour un road trip en Californie durant l'âge d'or des années 60-70. Et on démarre notre voyage ici. If you're going to San Francisco.
Scott McKenzie en 1967 avec son Ode à San Francisco.
C'est évidemment la chanson la plus connue sur San Francisco, mais vous savez quoi, Julien ? Son auteur, John Phillips, leader des Mamas et Papas qu'on a entendu juste avant, ne l'a pas écrite pour célébrer celle qu'on surnomme Frisco, mais pour faire la promotion du fameux festival de Monterey qui s'est tenu en 1967. Pas très loin de San Francisco.
C'est original et quelque chose me dit que ça a plutôt bien marché.
Avec Woodstock, c'est indéniablement le plus grand festival de l'histoire du rock, avec une affiche à tomber à la renverse qui comptait notamment un jeune chanteur soul. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Cause I've had nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away.
J'ai bien compris, Julien, Otis Redding qu'on vient d'entendre était donc à l'affiche du festival de Monterey.
Exactement, et quelques semaines après le festival, il revient donner une série de concerts dans le centre de San Francisco. Il dort pour l'occasion dans un hôtel du centre-ville, mais l'établissement est vite assiégé par les fans. La situation est intenable, alors son manager lui trouve en urgence un point de chute.
Un autre hôtel ?
Plus précisément un bateau hôtel, mais de l'autre côté de la baie et du mythique pont du Golden Gate à Sausalito, une petite ville bien connue des touristes qui visitent la baie. Et c'est là, en août 1967, qu'il écrit The Dock of the Bay. Quatre mois plus tard, il perd la vie dans un accident d'avion juste avant que la chanson ne soit publiée et devienne son plus grand succès. Posthume donc.
Incroyable.
Légendaire, vous voulez dire. On est parti de San Francisco, on a traversé le Golden Gate, profité du spectacle de la baie depuis Sausalito. Je vous propose de continuer notre voyage vers le nord et l'est. On traverse les grands vignobles de Sonoma, de Napa Valley, puis on met le cap sur Sacramento, la capitale de la Californie. Mais on va s'arrêter un peu à l'écart de la ville, en pleine nature, au bord d'une rivière.
Un classique du répertoire de Creedence Clearwater Revival. Elle existe vraiment, cette rivière ?
Ah oui, elle est même plutôt pittoresque. Et c'est là, près de la ville de Winters, que John Fogerty, le leader du groupe originaire de Berkeley, près de San Francisco, venait passer ses vacances quand il était gamin. Simplement, le cours d'eau en question ne s'appelait pas Green River, mais Poutah Creek. Et Fogerty l'a rebaptisé Green River, du nom d'un soda à la mode des années 50.
Ça donne envie d'aller s'y tremper les pieds, mais il faut déjà repartir, cette fois vers le sud.
Et on va filer à travers le désert en direction de Los Angeles. Welcome to the hotel.
Voilà sur une route sombre en plein désert pour ouvrir Hotel California, le morceau culte des Eagles.
Un décor en clair-obscur à l'image de la couverture du disque où le Beverly Hills Hotel de Los Angeles est photographié au crépuscule, comme pour symboliser une Californie des années 70 sur laquelle le soleil se couche, après la période bénie des années 50-60. Un thème déjà présent au tout début de la décennie dans un autre chef-d'œuvre.
LA Woman, une des dernières chansons enregistrées à Los Angeles par les Doors, avant que Jim Morrison n'aille mourir à Paris quelques semaines après la sortie du disque.
Cette chanson est à la fois un testament et un leg à Los Angeles, la ville d'adoption de Morrison, devenue sa muse. Une ville qui vacille en permanence entre ombre et lumière. City of lights, city of nights, chante Morrison. Loin de la candeur de la décennie précédente, d'une Californie mythifiée, incarnée par les Beach Boys. Mais ça, on en a déjà parlé. Round, round, get around, I get around, yeah, get
around, round, round, I get around, I get around. Quel voyage, vous nous avez fait rêver, Julien. La semaine prochaine, c'est Laurie Kenton qui sera à ce micro. Fini les vacances, on replongera dans la présidentielle. À bientôt, Julien.
À très vite, Julien.
Les Beach Boys, pour refermer le journal d'Haïti et des Amériques, réalisé aujourd'hui par Arthur Geoffroy. Merci à lui, à la rédaction en chef.
Benoît Almeiras, vous restez avec nous. RFI vous accompagne dans un instant de vive voix avec Laurence Garcia sur la radio du monde. Très bon week-end à l'écoute des RFI.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Du 29 août au 8 septembre, la diversité des cultures mondiales sera le cœur battant du festival Jazz à la Villette à Paris. Qu'ils viennent des Caraïbes, des Amériques ou d'Europe, les musiciens qui s'y produiront porteront tous un regard vers la source africaine de leur expressivité. Anne Sanogo et Franck Picard, instigateurs de cette édition 2024, sont nos invités.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Samedi, à partir de 13h30.
RFI.